Occidental. J'ai réfuté totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. Du 12 au 16 février et du 20 au 22 février dernier, s'est tenu à Zongo dans le Bas-Congo un forum sur la réforme de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Plusieurs recommandations y ont été formulées, entre autres l'introduction du système LMD, licence, maîtrise et doctorat, caractérisé par un enseignement plus pratique dans les universités et la diminution du nombre d'années dans chaque cycle académique. Alors, nous en parlons. Comment commentez-vous cette actualité? Vous pouvez nous rejoindre à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien nous appeler au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. La réalisation de cette émission est assurée par Pierrot et la Mégie et Sylvain Matundu est à la mise en onde de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Nicole Gata. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons en ligne professeur Ndaiwel qui est le modérateur ou qui fut le modérateur principal de ce forum qui a été organisé à Zongo dans le Bas-Congo. Bonjour professeur. Voilà, nous avons tous suivi l'actualité. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les motivations premières de l'organisation de ces forums?
Oui, je dois d'ailleurs rectifier quelque chose. La motivation essentielle de ce forum, c'est après le constat de la dérive généralisée de ce qui se passe au niveau de l'enseignement supérieur universitaire, le forum a eu pour objectif de réunir des éléments pour une feuille de route pour assurer le redressement de l'enseignement, du sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, c'est-à-dire améliorer la qualité de ses prestations au niveau de l'enseignement, de la recherche et de la participation à l'effort du développement. Donc c'est plus global. Et à cette occasion, le forum a salué d'abord la signature par le chef de l'État de la loi cadre sur l'enseignement national, qui a été considéré comme un signal fort que cette signature intervienne tout de suite après que le Parlement ait voté cette loi. Donc, les deux éléments ont été d'une richesse extraordinaire pour permettre à ce forum de bien travailler. Je voudrais d'ailleurs rappeler tout de suite que ce forum a réuni à peu près 80 personnes qui étaient donc des représentants d'abord des institutionnels du pays, la présidence, la primature, le gouvernement, mais également les conseils d'administration, les recteurs des universités privées officielles, le personnel académique et scientifique, une délégation d'étudiants, et voire même des experts extérieurs congolais de la trempe de Likiambokolo, Moïla Chiembe, Bob Kabamba et Kaboulé. Donc voilà, ça a été un moment intense de réflexion sur notre enseignement supérieur et universitaire.
Alors, entre autres, parmi plusieurs recommandations qui ont été formulées, il y a entre autres l'introduction du système LMD, licence, maîtrise et doctorat, qui sera caractérisé par un enseignement plus pratique dans les universités et la diminution du nombre d'années dans chaque cycle académique. Ça sera effectif quand exactement?
Bon, nous avons là, en fait, 12 mois. La loi cadre donne 12 mois parce qu'il faut toute une série de mesures d'application sous forme d'arrêtés ou de décrets du Premier ministre. Mais dans l'entretemps, il y a déjà une prédisposition qui doit être faite parce que le LMD, ce n'est pas simplement le changement, le passage de gradué à 3 ans à licence 3 ans, de licence ancienne formule à maîtrise, mais c'est également une autre manière de voir l'enseignement. C'est susciter la créativité des étudiants, les mettre dans des situations extrêmement concrètes et permettre ainsi qu'il y ait une facilité maintenant de connexion avec les universités extérieures. De sorte que lorsque quelqu'un quittant le Congo va poursuivre ses études ailleurs, on ait les correspondances facilement. Parce que pour le moment, on ne se retrouve pas du tout, puisque nous avons un système quelque peu excentrique par rapport à ce qui se fait pratiquement ailleurs dans les autres universités africaines, européennes, voire nord-américaines.
Alors, professeur, on sait que nous engager dans ce processus de Bologne, parce que c'est comme ça qu'on appelle communément, connu sous le système de licence, maîtrise et doctorat, quels sont les avantages que la RDC pourrait tirer par après?
Mais je viens de le dire, la première possibilité, c'est de donner une meilleure circulation de nos étudiants au sein de nos propres universités, mais également la circulation extérieure. Mais le plus important, c'est que nous aurons alors un enseignement beaucoup plus adapté aux situations concrètes. Quitter donc les enseignements purement théoriques qui ne sont plus de mise actuellement. Il y a d'ailleurs une telle diversité de savoirs qu'il faut pour le moment que celui qui est formé à l'université ait la capacité par lui-même de compléter sa formation, mais aussi de s'adapter aux situations d'emploi, aux exigences d'emploi. Donc alors, cette révolution qui va être faite par l'introduction progressive du reste, j'insiste, progressive du système de LMD.
Voilà, je repose en fait ma question autrement. Aujourd'hui, c'est vrai, on sait que le problème, la question sur l'homologation du diplôme est aujourd'hui au niveau international, ça a toujours posé un problème par rapport au niveau. Est-ce que le fait que la RDC s'engage aujourd'hui dans ce processus, ça pourrait résoudre ce problème concrètement, parce qu'il y a vraiment les auditeurs qui entendent cette question clairement?
Mais bien sûr, ça va résoudre ce problème, pas simplement au niveau formel, parce qu'on emploie le terme LMD, mais parce que également dans le fond des choses, nous allons procéder par une adaptation de notre système d'enseignement.
Donc, même au niveau de 3 ans de graduat, le niveau sera élevé, parce qu'on a toujours décrié que l'enseignement supérieur universitaire est aujourd'hui au rabais. Est-ce que réduire le nombre d'années, ça ne pourrait pas avoir un impact négatif?
Non, absolument pas, parce que la licence qui remplace le graduat, c'est exactement 3 ans. Et le master qui remplace la licence, c'est exactement 2 ans. Donc au niveau des années, c'est la même chose. Ce qui change, c'est le contenu. Et ce qui change aussi, c'est le doctorat. C'est-à-dire qu'il ne sera plus indispensable de passer par des DA ou des DS pour pouvoir accéder directement au doctorat, puisque celui qui fait le master est déjà préparé à faire de la recherche. C'est ça le grand changement. Voilà le changement.
Voilà. Nous allons ouvrir les standards pour voir comment également cette thématique, les auditeurs qui nous ont rejoints, Jean-Pierre était à Kinshasa et Franck nous a appelé de Vienne en Autriche, 081 890 63 15 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Professeur Ndayuel, nous vous gardons encore en ligne. Il est temps pour nous d'accorder la parole à Jean-Pierre qui est à Kinshasa. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour Roger, bonjour au professeur et bonjour à tous les millions d'auditeurs qui nous suivent à travers le monde entier. Vous Jean-Pierre Mbouli à partir du haut sommet du savoir que le campus universitaire de Kinshasa.
Vous avez la parole Jean-Pierre.
Oh oui, d'emblée, dans cette guerre, je voudrais tout simplement vous remercier, JR, pour avoir porté les choix sur ce sujet. C'est trop important pour nous qui avons intégré le monde universitaire. Bon, je trouve qu'il est anormal aujourd'hui de constater que le changement de cycle de graduat transformé en licence et trouver aussi des années de maîtrise, des années de doctorat. Ce n'est que, je dirais, c'est un véhicule où on a changé ne fût-ce que le chauffeur. Si aujourd'hui vous arrivez que votre véhicule n'a pas du carburant, que vous dites au chauffeur de sortir, que vous remplacez encore un autre chauffeur, le 26 ne doit pas toujours marcher.
Oui, concrètement, Jean-Pierre.
Je vais vous dire que.
Oui, vous voulez dire quoi?
Il a parlé tout d'abord que le professeur nous dit à combien dans notre budget national, combien de pourcentages ont été alloués à l'éducation nationale. C'est à partir de là que nous pouvons tirer des pour et les contre. Parce que quand la vie du corps professionnel de la CRE est mise en danger, on n'aura jamais à s'attendre à un bon fonctionnement de cette initiative. C'est-à-dire, monsieur Gier, on ne peut jamais manquer de s'étonner qu'il y a eu beaucoup de réformes qui ont été entreprises. Merci aussi. Si le président de la République parvenait aujourd'hui à signer
la loi 4.
C'est parce qu'il a passé par le banc de l'école. On ne pouvait jamais parler de lui s'il n'était pas sur le banc de l'école. Il a fallu tout d'abord améliorer la vie et les conditions auxquelles les professeurs d'université, les professeurs des humanités, les enseignants de l'école primaire, et qu'ils sont en train de traverser aujourd'hui comme vie. Cela ne nous donne pratiquement pas quelque chose à espérer.
Merci beaucoup Jean-Pierre. Là, vous êtes un peu trop pessimiste hein, par rapport à ce système. Vous posez quelques préalables, notamment la prise en charge des professeurs et aussi les conditions dans lesquelles passent en fait les études, les étudiants dans les milieux universitaires. Donc si jamais on améliorait ces conditions, ça pourrait avoir un impact positif sur ces systèmes. Merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir appelé de Kinshasa. Que vous êtes à Vienne, en Autriche, voilà. Vous nous rejoignez. Merci beaucoup, Franck. Vous avez la parole.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci aussi à notre invité qui a bien dit l'essentiel de ce que nous devons dire. Nous devons aussi le reconnaître que un enseignement de qualité dans chaque pays et surtout un enseignement supérieur et universitaire de très bonne qualité est un des atouts vraiment considérables du vrai développement des sociétés. Chez nous, en République démocratique du Congo, le circuit des enseignements supérieurs et universitaires connaît encore beaucoup d'obstacles pour bien répondre aux besoins de la société congolaise. Et avant de développer ce que je veux dire, j'ai toujours dit, moi je trouve qu'il y a d'abord une des difficultés centrales qui est dans notre système éducatif congolais. Et la difficulté est que, après les humanités, quelqu'un qui finit les humanités, on voit que l'université ou les écoles supérieures, parce que chez nous, on n'a plus les écoles de métiers, on n'a plus les écoles techniques, et c'est tout le monde qui pense qu'après avoir fini les humanités, on doit absolument faire l'université. C'est bien d'avoir ça comme aspiration. Mais avec cette difficulté, nous sommes liés, nous sommes contraints maintenant à des problèmes. Il y a un problème d'abord au niveau des programmes de ces enseignements et aussi au niveau de l'orientation. Parce qu'on se retrouve là avec tout le monde, il y en a qui n'ont même pas de capacité pour faire l'université, mais comme ils n'ont pas d'autres opportunités à exploiter, ils se contentent seulement de ce qui est là. Il y a encore des difficultés liées au personnel, au profil de ces enseignants. Donc, on a toujours des problèmes du personnel dans nos universités. On a des gens qui peuvent bien se défendre, mais on ne donne pas tous les moyens pour bien travailler. Il y a aussi encore un problème des infrastructures. Il y a des universités qui pullulent partout dans nos provinces, dans nos cités. C'est très bien d'en avoir dans chaque coin du pays, mais toutes ces institutions universitaires fonctionnent dans quel conditionnement? Et il y a aussi un problème de sélection des
étudiants. Oui, Franck, pour votre information. Franck, pour votre information, je crois que notre invité pourrait revenir là-dessus en large, parmi les recommandations, parce que nous ne l'avons pas dit clairement, et ça fera peut-être l'objet aussi d'une autre émission. Il a été décidé que le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire ne va plus octroyer des agréments aux nouvelles institutions ou des institutions nouvellement créées. Donc je crois que c'est une décision, nous aurons beaucoup plus d'éclairage avec notre invité pour apaiser votre préoccupation, Franck. Mais il y a une question de relance, Franck, par rapport à ce que vous venez de dire. C'est vrai qu'on est très engagé maintenant dans le processus de rapprochement des systèmes d'enseignement supérieur européen avec les standards que nous avons appelés les processus de Bologne. Aujourd'hui, certaines personnes pensent que cela signifie que nous sommes obligés de réadapter le programme le programme de l'enseignement supérieur universitaire. Et ça va prendre du temps. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, dans la plupart de mes interventions, quand il s'agit de l'enseignement, j'ai toujours dit, j'ai toujours milité qu'on arrive à cette réforme. Ça tarde. Parce que qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai prêté là chez nos pays, j'ai encore prêté ici quelques fois avec un cours thématique. Je me rends compte que les enseignants sont centrés sur les besoins locaux, sur les besoins locaux. Chez nous, on enseigne en fonction de l'Europe, on enseigne en fonction de l'étranger, en fonction de ce qui se passe ailleurs. Et à la fin du cycle, vous vous retrouvez avec des gens qui sont bourrés de connaissances, mais lesquels ne sont pas très utiles pour faire développer leur pays. Et par rapport à certaines facultés, chez nous, nous savons qu'il y en a qui font l'informatique, mais qui ne savent même pas manier un ordinateur. Il y en a qui ont fait l'informatique avec un diplôme de graduat, mais qui ne savent même pas utiliser une machine ordinateur. Donc, il y a autant de problèmes. Je crois qu'il faut qu'on arrive à cette réforme. Il ne faut plus que ça tarde. Parce que les besoins de l'université doivent s'adapter, les profils de l'université doivent s'adapter aux besoins du pays, aux besoins locaux. Mais maintenant, chez nous, si on forme des gens qui ne savent pas bien servir leur pays, si on forme des gens qui, à la fin du cycle, sont presque inutiles, sont presque au chômage dans leur propre pays, à quoi ça sert toute cette formation? C'est là vraiment une question, un défi devant lequel nous nous trouvons.
Merci.
Moi, je trouve que c'est très important. Il faut que l'État trouve des moyens, il faut que l'État trouve des gens capables de bien travailler dans toutes ces commissions-là.
Pour prendre
des gens qui vont travailler pour leur poche parce qu'il en va de l'avenir du pays. Un pays sans programme d'éducation, un pays sans jeunesse préparée, un pays sans cadre intellectuel, un pays sans universitaire n'a pas de survie. Et je crois qu'il faut le dire, qu'il faut bien penser à réformer ce système éducatif. Là, vraiment, on ne peut pas aller par quatre chemins pour dire que ça vaut la peine. C'est déjà le temps de s'y mettre.
Merci beaucoup, Franck. Mangoyo, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Gilles.
Votre point de vue?
Bon, depuis ma bourse, je tiens à présenter mes meilleurs voeux à toute l'équipe de la radio Capi et aux auditeurs de cette même radio.
Merci.
Monsieur Gilles, ce sujet est important. C'est pas la première fois que nous abordons ce genre de thématique au niveau de la radio Capi. Pour faire une étude, je vais seulement compléter un peu Franck, qui a appelé une épivienne. Nous avons connu effectivement dans ce pays beaucoup d'efforts, surtout au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. C'est bien, une fois de plus, d'introduire une telle réforme. Mais je dois vous dire que le problème ne se trouve pas au niveau de la réforme. Le problème ne se pose pas au niveau des textes. C'est au niveau des acteurs. Vous savez, je viens de suivre notre invité, le professeur Ndayuel, que j'apprécie. Il a dit que au niveau de la durée de la formation depuis la licence et
le
graduat jusqu'au doctorat, LMD, c'est toujours 5 ans. Mais le changement, selon lui, se trouve au niveau du contenu. Or, GR, lorsqu'on parle du contenu, on voit directement les acteurs. Et je voudrais aussi rappeler qu'à l'origine, GR, l'université a été créée pour apporter des améliorations sur les conditions de vie, sinon sociales, des populations et pour favoriser le développement intégral d'un pays. Voilà pourquoi l'université à l'origine a été créée.
Mmh.
Est-ce que, au jour d'aujourd'hui, après toutes ces réformes que nous avons connues dans le secteur éducatif, est-ce que nous pouvons dire, répondre à cette question-là, est-ce que l'université en RDC a vraiment apporté des améliorations aux conditions de vie, aux conditions sociales et a favorisé le développement de ce pays. Donc si nous pouvons répondre à cette question-là, je crois que toutes les réformes que nous ferons auront un sens.
Merci beaucoup.
Vous avez soulevé un point GR.
Oui, rapidement, Général Mangou.
Oui, j'ai apprécié, vous avez dit ceci, qu'il y a aussi ces problèmes des agréments.
Des agréments, oui.
Oui, agréments. Je me rappelle bien, il y a un ministre, pour ne pas le citer, le professeur
Machako,
qui avait osé.
Qui avait retiré certains.
Oui. Pour essayer un peu
d'assainir
de redorer le blason de l'université, mais apparemment il n'a pas été compris. Comment vous pouvez expliquer, une université qui naît aujourd'hui, dans un quartier comme ça, prétend former par exemple des médecins? C'est extrêmement dangereux. Alors, si nous apportons si nous continuons à réformer, mais lorsque nous ne faisons pas attention aux acteurs et à la volonté du pays, eh bien, ça sera, comme par le passé, un coup d'épée
dans
l'environnement dans lequel évoluent les universités actuellement. Allez à l'UNIKIM, allez à l'ISC, allez à l'ISTA. Moi, j'ai terminé depuis 1985, mais quand je vais à l'ISTA, GR, ce que je vois là-bas comme conditions de vie des étudiants,
Ça laisse à désirer. Merci beaucoup.
C'est vraiment durant.
Merci beaucoup, ingénieur.
Et aussi à l'UNIKIM.
Merci beaucoup, ingénieur Mangoyo, d'avoir appelé de Kinshasa et surtout d'avoir contribué à cette émission 081 890 6315. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Parole aux auditeurs.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Nous poursuivons avec parole aux auditeurs. Nous avons en ligne professeur Ndaïwel qui est notre invité aujourd'hui et le modérateur principal de ce forum qui a été organisé à Zongo. Professeur, vous avez suivi les uns et les autres, en commençant par Jean-Pierre, aussi ingénieur Mangoyo et également Franck de Vienne. Alors, vous avez suivi leurs préoccupations. Comment vous les orientez?
Eh bien, moi, je vais dire que nous sommes tout à fait d'accord avec eux. C'est pour cela que j'ai insisté tout à l'heure. Notre forum n'a pas porté sur une réforme quelconque, mais sur le redressement du sous-secteur de l'enseignement supérieur universitaire. Donc, c'est global. À Jean-Pierre, je dirais que, bien sûr, nous sommes tout à fait d'accord avec lui qu'il ne faut plus qu'il y ait un hiatus entre le budget voté et le budget exécuté. Et il faut que les moyens matériels, financiers, humains, soient donnés à la tutelle, mais également aux différents établissements, pour que ça marche bien. Nous avons également insisté sur le respect des capacités d'accueil. Nous avons été même très loin. Nous avons dénoncé la marchandisation des syllabus et rappelé que ce n'est même pas une obligation pour les étudiants d'avoir le syllabus. Je dirais, s'agissant de ce que Franck a dit, nous sommes tout à fait d'accord avec lui. Tout le monde, d'abord il faut saluer le fait que chez nous, nous avons véritablement un engouement maintenant pour le savoir, rechercher à être instruit. C'est vraiment une valeur importante. Moi-même je le vis lorsqu'il y a des collègues extérieurs font des séjours ici, c'est ce qu'ils retiennent, c'est que les étudiants congolais sont extrêmement curieux. Mais ceci dit, tout le monde n'est pas censé être à l'université ni à l'institut supérieur. Il faut absolument qu'il y ait d'autres établissements et nous saluons les efforts qui sont faits à ce niveau, notamment par Maman Olive et d'autres pour créer des écoles techniques. C'est quelque chose de tout à fait important, nous sommes d'accord. Avec Mangayo, nous sommes également d'accord. En fait, quel est l'objectif de l'enseignement supérieur universitaire? C'est d'abord l'enseignement, c'est-à-dire former des hauts cadres dont le pays a besoin. C'est la recherche, c'est-à-dire participer à la production du savoir, notamment du savoir à partir des réalités du pays. Mais également, troisième élément, participer au développement du pays par des actions concrètes. Alors, si au passé notre bilan n'est pas très très positif, ce n'est pas une raison que nous ne puissions pas nous dire, écoutez, ressaisissons-nous, faisons de notre secteur un secteur performant, parce que l'enseignement supérieur universitaire, il faut le dire très clairement, c'est un des piliers les plus importants de la modernité du pays. Si nous pensons à la révolution de la modernité, si nous pensons atteindre à l'horizon 2030 le fait d'être un pays émergent, eh bien, on ne pourra pas se passer de ce secteur qui est un élément important. Donc, je pense que ça tombait très bien que le Parlement puisse statuer sur cet accord cadre et surtout que le chef de l'État puisse promulguer ça rapidement. Parce que nous pensons que si la loi donne 12 mois pour la mise en œuvre de cette loi, pour que tous les actes d'application soient au point, nous ne pensons pas qu'il faille attendre nécessairement les 12 mois. Donc on doit commencer dès à présent, c'était d'ailleurs la volonté du ministre intérimaire, dès à présent, mettre au point une commission qui va élaborer rapidement les projets de textes, les projets de décrets, les projets d'arrêtés pour la mise en œuvre de ces différentes dispositions et espérer que d'ici dans les premiers mois de l'année, que nous puissions vraiment commencer à voir ce redressement. Il y a aussi tout simplement au niveau des universités, sans attendre des lois, les efforts que nous devons faire. Par exemple, le simple respect du calendrier académique n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait de nouvelles lois ou des décrets du Premier ministre. Le fait de pouvoir donner correctement des enseignements, le fait d'ailleurs de pouvoir faire en sorte que les enseignants eux-mêmes soient cotés par les établissements, mais également par les étudiants, c'est quelque chose qui peut déjà entrer
améliorer
dans la mise en œuvre de ce qui doit être fait, parce que tout cela est prévu au niveau de la loi cadre, et je pense que au niveau de Radio Okapi, il faudra absolument procéder par, je dirais, la sensibilisation de l'opinion sur cette loi, sur le contenu de cette loi.
Alors,
nous discréditons les textes, mais très souvent les textes sont bons, mais nous ne connaissons même pas le contenu de ces textes.
Oui, nous ne pensons
pas à leur mise en œuvre.
Oui, en passant, professeur, nous avons même pris l'option donc de faire une série d'émissions par rapport à cette loi pour expliquer un peu ce qui va se passer dans les jours à venir. Mais parce que vous l'avez dit, c'est quand même une expérience. Nous nous engageons dans un processus, mais il y a d'autres universités et instituts supérieurs de la RDC qui ont déjà pris à bras le corps cette initiative, notamment l'Université catholique du Congo. UCC, qui a été l'une des premières institutions à intégrer ces systèmes dans ses enseignements au cours de l'année académique 2012-2013. Je ne sais pas si nos informations sont bonnes.
Mais c'est une très bonne idée. D'ailleurs, le recteur de l'UCC fait partie du forum. Il était présent. Donc, il y a eu d'ailleurs une très belle représentation des universités privées. L'université protestante, l'université Notre-Dame, etc. étaient là. L'université Sepromade était là. Donc, nous avons là des expériences diverses. Nous disons, on se donne une année, les 12 mois, je pense que partout, il faudra qu'on puisse basculer vers ce
processus
système LMD, qui est le système Bologne. Et je le répète, les amis l'ont très bien dit, les études restent à peu près les mêmes au niveau des années, mais ce qui change, c'est la méthode de travail. C'est la méthode de travail portée essentiellement, comme l'a très bien dit Franck, sur les données locales. Il faut que nous soyons capables de bien maîtriser les données locales. D'ailleurs, ce que le monde attend de nous au niveau de la recherche, c'est d'amener des éléments du savoir à partir de nos données et non pas continuer à faire du psittacisme qui consisterait tout simplement à répéter très bien ce qui se fait ailleurs.
Merci donc, beaucoup, professeur.
À ce niveau-là, tous les espoirs sont permis, mais à condition que nous puissions vraiment travailler fort pour que cette loi connaisse connaît, c'est une mise en œuvre. Presque, je dirais, à 100%.
Oui, professeur, nous vous gardons encore en ligne. On va repasser de l'autre côté du standard avec Gilbert, qui est à Kananga, et Alphonse à Roux. Gilbert, bonjour.
Bonjour, monsieur le Pierrot.
Oui, c'est plutôt J.R. Lungembo qui est à l'antenne. Gilbert, là, dans une instruction académique, parce que vous suivez bien l'actualité, qui a été publiée d'ailleurs en 2011, le ministre honoraire Bacha Kumamba avait fait part de la volonté de la RDC de s'arrimer dans les standards internationaux en mettant en place le mécanisme du processus de Bologne avec le système licence, maîtrise, doctorat, tout en systématisant progressivement les cours d'anglais et d'informatique dans tous les établissements de l'ESU. Aujourd'hui, et c'est pratiquement pari gagné avec la promulgation de la loi à cadre par le chef de l'État et aussi cette loi qui a été votée au Parlement. Vous avez suivi l'actualité avec nous, ces forums qui a été organisé. Nous avons la chance d'avoir le modérateur principal aujourd'hui comme invité. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ces systèmes?
Avant de commencer, je souhaite d'abord joyeux anniversaire à
Dieu. Merci, merci Gilbert.
Moi, je salue vraiment cette mesure pour la réforme de la
justice. Oui, Gilbert, s'il vous plaît, si vous pouvez dynamiser un peu votre voix, parce que là, on vous saisit à peine.
Oui, oui, j'ai dit que je salue vraiment la réforme de l'enseignement universitaire, parce que, sous d'autres yeux, l'enseignement universitaire ne dure pas beaucoup d'années comme dans notre pays. Maintenant, mon problème, c'était de savoir quand est-ce réellement cette mesure de réforme sera mise en application. Parce qu'au Congo, nous sommes déjà habitués à des réformes, mais qui nécessairement n'aboutissent pas. Et à part ça, quel sera maintenant le sort des étudiants qui sont en cours de l'enseignement pendant ce moment ou pendant ces années académiques, quand cette mesure sera d'application? Mais néanmoins, la mesure vraiment est sincère. Mais il faudra aussi voir les autres aspects, tels que certaines universités comme l'université de Kinshasa qui ne respectent pas
le calendrier académique. Merci. Oui, rapidement, Gilbert.
La prise en charge des enseignants et aussi redynamiser aussi et remettre en ligne les problèmes de la bourse d'études pour les étudiants, etc. aussi, c'est une musique qui font bien qui permet à la
Merci beaucoup Gilbert, vous avez plutôt pensé à l'amélioration des conditions de vie et des enseignants et aussi des étudiants et surtout là vous venez d'évoquer, de souligner un aspect avec la bourse d'études. Vous vous souvenez, nous avons eu à faire des émissions, une série d'émissions par rapport à la bourse d'études. Aujourd'hui c'est vrai, il y a eu cette expérience qui a été reconduite par, disons, le Premier ministre honoraire Mouzitou et puis finalement plus rien, il n'y a plus de bourse. Est-ce que ces forums a pu statuer aussi sur cet aspect des choses? On va y revenir, Gilbert, d'un moment à l'autre. Alors, Alphonse est à Roux. Bonjour, Alphonse.
Bonjour, Thierry. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi. Comme a dit mon prédécesseur, je commence aussi par présenter mes vœux de bonheur, de succès, de performance, de longévité à Radio Capi qui s'ouvre les cieux de sa deuxième bougie.
Aujourd'hui.
C'est la radio qui fait la fierté de notre pays et pourquoi pas de l'Afrique. J'ai dit félicitations et bon anniversaire à tous les journalistes de notre radio qui se veut être pour le peuple, avec le peuple et au service du peuple hier.
Merci beaucoup, Alphonse.
Par rapport à la thématique du jour hier, nous sommes parmi ceux qui saluent cette initiative de l'instauration du système de LMD dans les institutions universitaires de notre pays si ça aura réellement un impact positif au niveau du social. Beaucoup d'étudiants, des familles pauvres, se sont limités au niveau du premier cycle, ou très peu sont arrivés au niveau du second cycle à cause des possibilités pécuniaires qui ne leur permettent pas de s'inscrire et de poursuivre leurs études en maîtrise et doctorat à l'étranger. Alors pour moi, je trouve que c'est un ouf de soulagement pour les parents et l'État congolais parce que ça nous permettra d'avoir des compétences et de l'expertise nationale et des fois aura une incidence positive sur le chômage qui se porte en bonne santé en République démocratique du Congo. Hier, nous voudrions demander au gouvernement congolais de nommer les autorités académiques sur base de mérite pour élever l'étudiant congolais et lui donner une image d'une bonne référence à l'extérieur puisque nous connaissons tous que nous ne nous trouvons nulle part parmi les meilleures universités africaines et pourquoi pas les universités du monde d'une part et de l'autre côté. Il faut que le gouvernement ait, comme disait Franck de Vienne, des infrastructures comme il faut, des matériels et tout ce qu'il faut pour former ces cadres dignes de ce niveau-là. Nous demandons également la bonne volonté politique de bien payer ou d'améliorer les conditions des professeurs d'université et de bien accompagner ces futurs cadres qui sortiront des systèmes LMD dans les cas échéants. Ce sera très compliqué parce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas de développement sans volonté politique. Et nous trouvons qu'on puisse prioriser les domaines qui peuvent créer des emplois pour les Congolais, par exemple les domaines techniques et les domaines socio-économiques. Nous terminons notre intervention hier en disant que c'est une bonne initiative, et alors que le ministère ayant sous ses attributions l'enseignement supérieur et universitaire s'en approprie en donnant une ligne de conduite à suivre au système LMD tout en se greffant sur l'expérience de ceux qui en ont réussi et de disposer de bourses suffisantes, comme disait mon confrère qui vient de passer à...
Oui, je pense qu'Alphonse, les expériences ne sont pas cherchées très loin, parce qu'en face, le Congo Brazza a déjà fait cette expérience depuis des années. Je crois que notre invité pourrait nous éclairer également là-dessus, si cela ne pourrait pas aussi servir au fait des modèles, pourquoi pas. Alors, Alphonse, merci d'avoir appelé de Harou. Nous rentrons de l'autre côté de Bandundu pour retrouver Arsène. Arsène, vous êtes à Kikwite, bonjour.
Bonjour Monsieur JR.
Votre point de vue, Arsène.
Bon, mon point de vue a déjà été presque dit par mes prédécesseurs. Mais je voulais m'adresser au professeur Ndaïwel. Le professeur, c'est un historien de talent qui est connu de tout le monde. Je crois qu'il a essayé, il peut essayer un peu de voir un peu la chronologie de l'histoire de l'éducation nationale. Je crois qu'il faut marteler sur une chose, la qualité. Les mots ne suffisent pas. Le spectacle des décisions ne suffisent pas pour développer un pays. Moi, je crois, à mon avis, il faut voir le niveau. La qualité de l'enseignement et de l'éducation nationale. Si aujourd'hui nous sommes en train de vivre ce que nous vivons, je crois que quelque part, l'éducation et l'enseignement a failli. Comment reprendre en main cette éducation et cet enseignement? Je crois qu'il faut commencer par la base. La base, c'est l'école primaire. De l'école primaire jusqu'à l'université, il faut tout retoucher. Retoucher pourquoi? Parce que avoir l'âge, que je peux prendre l'âge minimum d'un docteur, doit aller aux environs de 25 ans. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire qu'on peut avoir des docteurs à 25 ans? Je crois que c'est chose impossible. Impossible pourquoi? Parce que l'infrastructure, la qualité de l'enseignement est réduite presque dans le néant. Et nous devons avoir la façon de mettre toutes les possibilités intellectuelles et les possibilités financières pour remettre l'enseignement et l'éducation à son état normal et concurrencer les pays voisins, concurrencer et les pays dans tout l'espace international. Voilà un peu mon avis.
Merci beaucoup Arsène. Professeur, vous avez suivi Alphonse et Arsène. C'est vrai qu'il y a un d'eux qui a évoqué l'aspect priorisation. C'est vrai que tous les secteurs sont ont quand même la valeur. Mais s'il faut prioriser aujourd'hui les secteurs de développement comme l'a souhaité l'auditeur, comment vous allez vous réagissez par rapport à ça?
Mais je pense que les réactions sont vraiment très intéressantes et positives. Pour commencer par la dernière intervention provenant de Kikwite, je dirais que la qualité, effectivement, est essentielle. Voilà pourquoi la loi cadre qui vient d'être promulguée n'est pas la loi cadre de l'enseignement supérieur et universitaire, mais la loi cadre de l'enseignement national. Il faut donc saluer le fait que la question de l'éducation nationale est considérée comme une totalité, partant bien sûr des primaires jusqu'à l'université et spécialement jusqu'au doctorat. Donc là, c'est une vision nouvelle dans laquelle nous devons entrer. Donc j'estime que c'est une très très belle observation. Alors pour commencer maintenant par Gilbert, j'ai retenu sa préoccupation concernant les bourses. Les bourses d'étudiants, le forum a pris une option pour des bourses prêts. C'est-à-dire que nous pensons que, à défaut d'arriver à donner des bourses comme traditionnellement, ce qui est très difficile vu maintenant le nombre d'étudiants, mais on peut au moins, l'État au moins peut accepter qu'il y ait des prêts qui soient faits aux étudiants. qui sont vraiment performants, qui veulent étudier, qui reçoivent donc cette bourse et qui pourraient un jour après, lorsque ils seront dans le monde du travail, envisager la possibilité, suivant les modalités mises en place, de rembourser. C'est ce qui se passe dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis. Donc nous pensons quand même qu'il faut soutenir les meilleurs éléments, les plus performants, ceux qui risquent de quitter le système uniquement pour des problèmes d'argent. Nous saluons également tout ce qui est dit sur la nécessité d'insister sur la condition de travail des enseignants. Vous savez que pour le moment, dans le pays, nous avons à peu près 1024 établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. C'est un record, j'allais dire, triste, parce que nous sommes en quatrième position dans le monde, après la Chine, l'Inde et les États-Unis. Donc c'est un record triste parce que le contenu n'y est pas. Donc la plupart de nos établissements ne méritent pas le nom d'établissement d'enseignement supérieur ou d'université. Voilà pourquoi, Géry, vous avez bien voulu rappeler que le forum a demandé qu'on puisse geler tout ce qui est reconnaissance de nouveaux établissements, des agréments de nouveaux établissements, mais également diligenter une enquête sur la viabilité des établissements et prendre le courage de fermer des établissements qui ne sont pas viables parce que on trompe inutilement notre jeunesse. Et déployer les étudiants qui seraient dans ces établissements malheureux, qu'on puisse les redéployer dans les établissements considérés comme viables. Donc il faut à un moment donné faire l'effort de revenir sur la qualité, ne pas se mentir mutuellement lorsque l'établissement ne vaut rien, prévenir les étudiants qu'ils vont faire tout un cycle de médecine, mais c'est un diplôme qui ne sera pas valable. Il faut qu'ils le sachent et au besoin même prendre le courage de fermer. Comme je l'ai dit, le forum insiste pour que l'État accepte de fermer et déployer ses étudiants sur d'autres établissements. Donc voilà un peu globalement ce que je voulais dire comme réponse aux questions pertinentes qui m'ont été posées.
Voilà, on va repasser à nouveau au standard pour prendre cette dernière série. Peut-être, je crois, s'il y a encore d'autres auditeurs qui nous ont rejoints, on pourrait leur accorder également la parole. Ernest est à Matadi, dans le Bas-Congo, et Séraphin à Ouvira. Ernest, bonjour.
Bonjour, Julien.
Vous avez la parole. Votre point de vue, Ernest.
Merci beaucoup pour la parole. Je crois que nous avons constaté que dans notre pays, l'enseignement supérieur a été dévalué, non seulement par la qualité des étudiants formés ou peut-être formés, mais par la cité universitaire. Nous avons perdu la beauté universitaire. Non seulement dans un université, on doit s'en voir. Et c'est donc de compte que nous sommes dans un autre monde. Les bâtiments, la disposition et tout ce que nous avons sacrifié tout ça pour donner nos libertés dans des petites maisons. Et je demanderais si, sans savoir si c'était l'idée d'initiative, nous voudrions voir demain que tout le monde n'a pas toujours aller à l'université ou à l'enseignement supérieur, mais que la qualité soit d'ailleurs formée à partir de l'enseignement primaire, secondaire, comme à l'ARCEL. C'est à ce niveau qu'on peut former des sélections de éléments pour permettre à des êtres formés d'être utiles, capables de faire quelque chose sans pouvoir aller à l'université. Mais ce qui passe à l'université, c'est là où on va créer le cerveau pour pérenniser les systèmes d'enseignement au niveau des élèves. Là, on va former véritablement des professeurs à l'université, des chercheurs de qualité. Mais si on a compté l'accès à tout le monde, je crois que nous serons un pays qui aura beaucoup d'universitaires, beaucoup de professeurs, et sur le terrain, il y aura rien de spécial. Moi, je crois qu'il faut revoir la qualité de l'enseignement de l'air, le bâtiment, tout ce qui est matériel, infrastructure, ça doit vraiment avoir la qualité et la qualité de notre universitaire et de changer le terminer. Aujourd'hui, la forme de l'université, on trouve même les étudiants qui ont terminé avec 58% de biens qui ont fait des travaux. Je crois qu'il est temps pour nous de changer les éléments d'une façon qualitative.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ernest. Vous décriez en fait la cette façon de faire hein, dans le recrutement des assistants à l'université, cette complaisance qui au fait qui caractérise même le recrutement des assistants, même ceux qui n'ont pas, qui ne répondent pas aux critères, aux conditions, et voilà, ils sont retenus comme assistants et ça crée quand même des problèmes où ça dénature un peu la qualité aussi de l'enseignement supérieur universitaire. Merci beaucoup, Ernest, d'avoir appelé. Nous prenons Séraphin qui est à Ouvira. Séraphin, bonjour. Séraphin, vous êtes avec nous, vous êtes à Ouvira. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, Séraphin, votre point de vue.
Oui, merci une fois de plus de l'opportunité que m'a accordé encore à passer à cette émission. Je suis avec beaucoup d'intérêt les prédécesseurs, aussi les professeurs qui au studio Moudi. J'étais passé au studio Moudi. Je le suis avec beaucoup d'intérêt. Moi, je crois que la réforme au sein de l'UCI est une très bonne chose, mais néanmoins, le problème, c'est celui de savoir, est-ce cette réforme, quel sera son impact sur l'éducation nationale. Moi, je vous informe que je suis en train de faire le master à Bujumbura, à l'université du Burundi, c'est ma dernière année d'ailleurs. Je remarque que ce que j'ai remarqué à la première année, parce que nous avons commencé au nombre de 58 étudiants. On a commencé au nombre de 58, on a éliminé 22 juste au début de l'année, et tous ces délais qu'on a éliminés compte de leur incapacité de poursuivre le master sont venus de pays où on applique aujourd'hui le système LM2. Moi, personnellement, j'ai remarqué que le système LM2, c'est un système qui affaiblit beaucoup plus les étudiants. Parce que les étudiants qui sont en RM2, ceux qui ont terminé leur licence pour continuer le master, ils ont assez d'insuffisance sur certains cours. Personnellement, je constate que ce système est bon, mais néanmoins, il faut savoir quel sera son impact dans l'éducation nationale. J'ai suivi le professeur à beaucoup d'intérêt lorsqu'il a dit qu'on essaiera un peu de recadrer les cours, de consulter les cours à la pratique. Mais ce qui est un peu aberrant, mais ça dépend aussi du domaine dans lequel on est en train de poursuivre. Parce que personnellement, dans la première année, on avait les cours comme commerce international, on avait les cours comme communication, on avait les cours comme marketing stratégique. Je suis en train de faire le master en management stratégique de l'entreprise. Et lui permet de consulter les cours que j'ai dénumérés à la vie active ou à la vie pratique. Donc, vous constaterez que ce qu'on est en train d'étudier, c'est à vous maintenant lorsque vous ferez embaucher peut-être dans une entreprise qu'il faut mettre en pratique.
Séraphin, en passant, parce que vous avez étudié à Bujumbura, c'est vrai ce que vous avez étudié dans ces systèmes LMD. Séraphin? Voilà, dommage. Sinon, on allait recueillir aussi l'expérience des Séraphins qui, en fait, est un auditeur fidèle de Radio Okapi. Hein, de temps en temps, quand tu fais encore étudiant à Bujumbura, il répondait à toutes les questions. Bon, on aurait bien voulu avoir quelques expériences par rapport à ce qu'elle a passé comme moment à Bujumbura pour voir si il y a eu des avantages que lui, personnellement, a pu tirer de ces systèmes. Merci beaucoup, Séraphin. Dommage que nous n'avons pas pu terminer l'entretien avec vous. On prend Richard. Et qui est à Kinshasa. Docteur Richard, bonjour.
Bonjour, J.E.
Vous avez la parole, bonjour. Votre point de vue.
Oui, bonjour à tout le monde. Oui, j'ai la parole. Je félicite le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire pour avoir pensé apporter des réformes au programme national de l'enseignement à ce niveau-là. Je félicite cette initiative. Une question se pose encore parce que le professeur Ndaïwel, qui a introduit cette émission comme invité, a reconnu les insuffisances. Il a reconnu qu'il faut améliorer la qualité. Je pose la question, à quel niveau améliorer la qualité? Au niveau des formateurs ou au niveau des apprenants? Parce que l'apprenant est le reflet du formateur. Ça, c'est un. Deuxième chose. Il a parlé de la pratique. La pratique, c'est en fait l'aboutissement de toute formation. Cela signifie aussi qu'il a reconnu que le programme donné n'est que théorique. Les preuves sont là. Le Congolais ne parle pas de son mbika, il parle du shawarma sur le plan de son alimentation. Ça, c'est une grosse lacune. Le Congolais ne parle pas de Mungwaba Senzi, même pour lutter contre l'hypertension et ses conséquences, d'entre autres les AVC. Il parle de notre NACL qui donne des AVC, c'est reconnu. Donc,
quelque part, je félicite aussi ceux qui regardent la pratique sur le plan du Congo. Entre autres, le professeur Théophile Bemba, qui a sorti un ouvrage sur les valeurs nutritives des produits alimentaires de Bandundu. Il a très bien fait. Combien de Théophile Bemba, de professeur Théophile Bemba, aurons-nous après la réforme LMD? Combien? Donc, les professeurs sont aussi appelés à se faire recycler. Nous avons reconnu un doyen, le feu Tchani Kalantanda, qui disait à ses collègues de se faire recycler, il refusait. Et aujourd'hui, si vous arrivez à la faculté de médecine, vous posez la question à un étudiant de médecine, même à ceux qui font la spécialisation, le fil qu'ils utilisent pour coudre ou suturer les malades, le catgut, vient de quoi? Ils parlent bien l'anglais. Rares sont ceux qui reconnaissent que le cat, c'est le cochon, ou le chat plutôt, et le gut, c'est le cochon. Ça vient de boyaux et des aponevroses des animaux. Maintenant, quel est le but maintenant de la réforme? Si on ne conduit pas nos enfants que nous mettons à disposition, donc les professeurs, au niveau des concepteurs, c'est une réforme qui ne sert à rien. Merci.
Merci beaucoup Richard. Nous allons donc au fait juste résumer votre intervention. Hein. Mon intention de mal interpréter votre intervention, mais on comprend que vous décriez ou dénoncez comme tout le monde qu'il y a vraiment baisse de qualité de l'enseignement supérieur universitaire. Aujourd'hui, s'il faut engager des réformes, s'il faut changer les choses, faudrait-il commencer par changer les conditions de travail de l'enseignant ou encore retravailler ou remodeler encore l'apprenant. Voilà, donc c'est à ce niveau-là que vous avez votre inquiétude. Alors, comme il s'agit là d'une préoccupation directe, on va directement transmettre ça à notre invité qui est le professeur Ndaïwel. Professeur Ndaïwel.
Oui, merci bien. Je pense que la convergence de vues sur les différentes questions soulevées démontre la pertinence des conclusions de notre forum. Je dirais à Richard que justement il faut améliorer la qualité à tous les niveaux par où commencer, mais je pense que justement on doit faire l'effort de faire ces améliorations de tous côtés, y compris au niveau des enseignants. C'est pas un problème, nous le reconnaissons. L'enseignant d'ailleurs est censé apprendre du neuf, pas très loin d'ailleurs à partir des étudiants. À partir de ces étudiants, c'est le questionnement de l'étudiant, ce sont les suggestions des étudiants qui incitent le professeur à continuer à réfléchir et à chercher à prendre du neuf. Donc, là-dessus, nous sommes tout à fait d'accord. Il a bien voulu rappeler l'ouvrage de Théophile Mbemba. Je voudrais lui signaler que Théophile Mbemba lui-même faisait partie du forum et donc, il peut donc par là se rendre compte de la richesse de ce qui a été dit et fait là-bas. Alors, le premier intervenant a bien voulu souligner les questions de la logistique. Et oui, bien entendu, pour qu'il y ait une université, un institut supérieur pertinent, un des tout premiers critères de la viabilité, c'est d'abord un bâtiment, mais aussi une bibliothèque. Et aussi la possibilité d'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, puisque les recherches se feront essentiellement à partir de cet outil, puisque c'est un outil de contact et c'est aussi la bibliothèque virtuelle qui permet d'aller loin. Donc nous devons en fait nous ressaisir. S'il y a eu dans le passé la complaisance pour le recrutement des assistants, nous pouvons nous ressaisir, mais également d'ailleurs faire l'évaluation de ces assistants. Est-ce que tous les assistants méritent-ils d'être assistants? Ne vaudrait-il pas mieux expliquer à certains assistants qu'ils n'ont vraiment pas le niveau et qu'ils n'arriveront jamais au doctorat? Donc voilà autant de choses qui devraient être faites à partir de maintenant. Alors, Séraphin a demandé quel est l'impact de toutes ces mesures sur l'éducation nationale. Bien sûr, il faut des évaluations assurance qualité. Des évaluations pas seulement au niveau interne. Nous pouvons également, de temps en temps, faire appel à des expertises en dehors du Congo pour venir expertiser nos propres établissements, nos propres enseignements, nos propres filières, pour voir si nous sommes dans le bon ou si nous avons des problèmes. N'allez pas imaginer, puisque vous avez voulu parler de Bujumbura, mais vous n'avez pas terminé, que ce qu'on recherche, c'est la facilité. Il faut un système où il y a de la facilité, où on réussit facilement. Non. Il faut rechercher le système qui amène une meilleure qualité au niveau de ce que j'ai dit, l'enseignement, c'est-à-dire la formation des cadres, la recherche, c'est-à-dire la production du savoir. L'université est censée produire les nouveaux savoirs. Et troisième élément, le service à la société, l'impact sur le développement. Donc voilà, ces trois éléments sont essentiels. Donc j'estime que de manière globale, nous sommes tous d'accord sur la nécessité de nous ressaisir, étudiants, professeurs, personnel scientifique académique, mais également ceux qui ne sont pas acteurs de l'éducation, c'est-à-dire l'ensemble de notre société. Voilà pourquoi saisissons cette loi cadre pour pouvoir, une fois pour toutes, sortir des contradictions également dans lesquelles nous avons baigné pendant ces dernières années. Voilà. C'est ce que je dirais, en tout cas, pour consolider, pour encourager tous ceux qui m'ont posé des questions.
Professeur Ndaïwel, nous rappelons que vous avez été le modérateur principal de ce forum qui a été organisé à Zongo dans les Bas-Congo. Merci d'avoir été notre invité du jour et à très bientôt.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Allô?
Voilà, nous disons également merci à Sylvain Matundu qui a assuré la mise en onde de cette émission aux côtés de Pierrot qui l'a réalisé. Il faut noter que ce programme a été coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Nicole Ngaka. On se retrouve demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi.